Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Fabrice Nadjari. Fabrice, on s'est connus à New York et maintenant tu habites à Los Angeles.
Oui, au moins la moitié du temps, parce que j'ai jamais pu complètement quitter New York. Mais...
Et alors, je ne sais pas précisément comment te présenter, tu fais du tes consultants.
Lâchons les mots qui fâchent.
Ouais, consultant en contenu, principalement.
Je fais de la stratégie de contenu, ce qui veut dire que concrètement, je travaille aux frontières entre storytelling et technologie. Mmh. Et voilà, j'assiste à un certain nombre de clients dans le domaine du luxe, des organisations internationales et de la technologie.
Mais là, on va surtout parler de Los Angeles. Parce qu'en fait, déjà, c'est intéressant que New York regarde LA pour la première fois, etc. Mais c'est vrai que LA, c'est un peu vu comme la ville du futur. Alors que l'image qu'on a... C'est une ville qu'on ne connaît pas très bien, finalement, quand on est en France, parce que déjà, c'est loin. Mm-hmm. On connaît bien la Silicon Valley quand il s'agit de technologie. Donc, tout le monde va faire son petit tour dans les startups, chez Google, chez Facebook, nanana. On a l'image, souvent, de LA avec beaucoup d'acteurs ou d'actrices ratées. Donc, tu t'imagines bien que potentiellement tu vas croiser une star dans la rue ou tu vas avoir des serveurs qui veulent être acteurs ou actrices et qui y sont pas.
Et ça existe toujours, je te rassure.
Mais aujourd'hui, pourquoi on dit que LA c'est la ville du futur? Enfin, c'est quoi le...
Je pense que c'est intéressant de regarder l'évolution de Los Angeles dans les dernières années et de voir comment la ville s'est positionnée déjà par rapport au reste des États-Unis et ensuite par rapport à, on va dire, sa grande sœur californienne, San Francisco. On a vu dans les cinq dernières années une véritable mutation de Los Angeles qui, comme tu le soulignais très justement, a longtemps été une ville mono-industrie, donc très très drivée par l'industrie de l'entertainment, qui en fait n'est pas vraiment une industrie, mais plutôt une sorte d'ombrelle à la créativité sous tout un tas de formes, l'image, le son, les effets spéciaux, etc., etc. Et c'est vrai que, je crois, il y a à peu près 10 ans, les statistiques disaient que 80% des gens à Los Angeles étaient employés de manière directe ou indirecte par Hollywood. Je pense que ce pourcentage est bien, bien inférieur maintenant. Et en fait, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est la convergence de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est une évolution classique, je dirais, des grandes villes dans le monde. On a vu... arriver petit à petit un certain nombre d'artistes et ça a commencé il y a une dizaine d'années mais de manière un petit peu plus critique il y a 5-6 ans et ces artistes, donc là on parle d'artistes contemporains, sont venus à Los Angeles attirés par l'accès à l'espace qui n'était plus vraiment possible à New York.
Ça c'est clair. Donc quand on parle d'artistes, c'est pas des chanteurs ou des acteurs,
on parle d'artistes, de plasticiens, ouais. de designers, ouais. Etc., etc. Et évidemment, il y avait une scène créative à Los Angeles qui vivait peut-être un petit peu plus commerciale, on va dire, que, dans l'esprit que ce qu'on pouvait trouver dans d'autres villes et notamment à New York. Mais l'accès à l'espace de la Californie en général et de Los Angeles en particulier, c'est-à-dire l'espace mais sans les prix de San Francisco, l'arrivée d'un certain nombre d'artistes. Donc ça a été un peu la première, je dirais, la première brique de la transformation de la ville. À côté de ça, évidemment, et ça c'est aussi un phénomène auquel on assiste depuis à peu près 4-5 ans, il y a une scène technologique qui a commencé à bourgeonner. Ça s'est fait dans le sillage de boîtes très très connues comme Snap, à tel point maintenant que il y a carrément un lieu donné dans Los Angeles qui s'appelle la Silicon Beach, aux alentours de Venise.
C'est quand même vachement plus sympa que c'est San Francisco.
Ouais, c'est plus sympa que San Francisco, c'est sûr. Mais en tout cas, cette scène tech, dans la lignée de ces grosses boîtes, Snap, et puis je dirais tout l'écosystème qui s'est créé autour de la production de contenu et de YouTube, ça a évidemment créé des emplois, ça a attiré tout un tas de gens, mais ça a attiré également tous les gens qui travaillent autour de ça. Mmh. Et notamment toute une tribe et tout un écosystème d'influenceurs attirés par le style de vie californien, quand même beaucoup plus agréable qu'à Los Angeles, San Francisco, pardon.
Ou qu'à New York,
puisqu'il fait beau, tout le temps, il y a un accès à la mer, il y a un accès à la nature, etc. Donc, ce que je trouve intéressant à l'heure actuelle à Los Angeles, c'est que finalement, c'est la rencontre entre cette technologie qui est descendue de la Silicon Valley, et d'ailleurs avec l'accès aux capitaux, on a vu là la semaine dernière Peter Thiel qui a quand même annoncé qu'il déplaçait ses bureaux de SF à Los Angeles. Ça a été un énorme pavé dans la mare de l'environnement VC. Donc évidemment, une fois que les boîtes et que les créateurs sont là et que les entrepreneurs sont là, bah, l'argent vient tôt ou tard. Donc je dirais c'est la confrontation entre la technologie et puis derrière le capital et puis ses capacités de storytelling qui ont fait la puissance d'Hollywood. Donc on a à la fois la tech et la capacité à raconter des histoires
et la qualité de vie
et même derrière, je dirais, les stratégies de distribution et de diffusion, puisque les influenceurs, on peut les considérer comme autant de médias à part entière. Mmh. Et je pense qu'il n'y a pas de ville au monde qui finalement présente cette intersection vraiment super intéressante, où finalement tout est intégré, quoi. Et je pense que cette transformation de Los Angeles, je dirais d'une ville de production un peu monolithique de contenu à cette diffusion à la fois digitale, lifestyle, est vraiment pour moi symbolique de ce qu'une grande ville peut offrir à la fois dans son urbanité, dans sa connexion au digital, mais aussi dans son rapport à l'espace, qui est une des choses pour laquelle Los Angeles est vraiment super intéressant.
Et puis le rapport à la nature, moi je pense que, enfin j'ai la sensation qu'il y a un mouvement sociétal plus large autour du bien-être, évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Et que du coup, San Francisco, LA, ça répond beaucoup mieux à ces nouvelles priorités que les gens se posent, que ce soit des créateurs de boîtes. Et quand on est créateur de start-up, on a envie que les gens vivent bien parce qu'on travaille beaucoup, donc on a envie d'avoir un environnement agréable. Que New York parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des espaces verts et parce que tu peux avoir de plus grands appartements, mais aussi que SF ou SF il pleut tout le temps, alors pas effectivement dans la Silicon Valley précisément, mais enfin, donc dès que tu descends un petit peu il pleut moins, mais c'est vrai que SF c'est pas une ville très agréable à vivre, et puis c'est, en plus c'est mono-pensé quand même,
bien sûr,
donc c'est
bien
quand
sûr.
Même très particulier, donc il y a quand même aussi ce lifestyle, cette qualité de vie à Los Angeles qui change énormément, il y a beaucoup de choses qui bougent, non?
C'est très juste ce que tu soulignes, et je pense que Los Angeles, et pour avoir vécu dans différentes villes dans le monde, je peux témoigner à titre complètement personnel en tant qu'individu et en tant qu'entrepreneur, mais je pense que Los Angeles est une des très rares villes au monde où on peut vivre complètement off the grid, c'est-à-dire en dehors de... On peut vivre à Los Angeles dans une petite cabane au milieu de la nature, au milieu de la montagne, faire un quart d'heure de voiture et être en rendez-vous avec le directeur marketing de Netflix. Ouais. Et je ne connais pas deux villes dans le monde qui sont à la fois très connectées au sens être un centre économique, permettre à tout un tas d'individus d'avoir des jobs très variés, et être vraiment, on va dire, sur la map des grandes villes internationales, mais en même temps permettre d'être complètement déconnecté avec un accès à la nature, à la mer, au désert et évidemment aux collines et à la montagne, extrêmement immédiat et extrêmement facilité. Et là, derrière ça, je pense qu'il y a il y a aussi une réflexion qui est assez intéressante. On parle souvent d'espace quand on parle de la Californie, et c'est vrai que tous les gens qui viennent la première fois en Californie sont surpris par finalement ce vide et cet accès et cette perspective que le désert peut donner. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette perspective, c'est finalement la manière dont l'espace va transformer les relations humaines, va transformer le rapport à soi. New York, on dit souvent, c'est une ville verticale, c'est une ville qui est, en tout cas pour Manhattan, même si Brooklyn maintenant devient une autre ville, c'est un autre débat, c'est une ville qui est extrêmement dense, c'est aussi la ville de l'ego quelque part, puisque tout est dans la construction sur
un tout petit
bout de terre.
Et puis c'est la ville du FOMO aussi, c'est-à-dire que le fear of missing out, c'est-à-dire que quand tu vis à New York, et on l'a expérimenté tous les deux, c'est que personne n'a jamais une minute.
Personne n'a jamais une minute. À Los Angeles, c'est très différent, parce que le fait d'avoir de l'espace, eh bien, quand on va voir quelqu'un, vu qu'on fait 45 minutes de voiture en général pour aller le voir, parce que tout est très distancié, bah, on reste pas 20 minutes, on passe plus de temps avec les gens. Donc, ce que j'aime bien, c'est finalement aussi comprendre comment, je dirais, la densité urbaine ou le manque de densité urbaine va induire des comportements complètement différents, va permettre aux gens aussi de tenter des choses, puisque finalement, quand on a une ville où on a accès à l'espace, eh bien, d'un seul coup, on peut monter une galerie, on peut louer un hangar et y projeter de la peinture, et on peut laisser vraiment libre cours à toutes ces folies. Et il y a pour moi un point un peu crucial que je trouve extrêmement intéressant, je dirais en Californie en général, mais que Los Angeles synthétise très très particulièrement, c'est finalement cette rencontre un peu entre la folie humaine et une certaine excellence. Et pour vous préciser mon point, je vais faire appel un peu à quelques notions historiques sur la manière dont s'est peuplée la Californie, parce qu'on parle souvent de la conquête de l'Ouest comme un des grands mythes fondateurs des États-Unis. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont les États-Unis se sont peuplés, c'était évidemment une colonisation qui allait de l'Est à l'Ouest. Mais en fait, quand vous étiez à cette époque-là un pionnier et un peu barjot, ou un peu avant-gardiste, ou un peu décalé, eh bien, en gros, ce qui se passait, c'est que si vous ne fitiez pas à un endroit, eh bien, vous alliez à l'ouest,
un tout petit peu plus à l'ouest
pour établir votre propre settlement. Sauf que en fait, à un moment donné, quand tu arrives à la côte, tu peux plus aller à l'ouest. Donc, la Californie, c'est un peu comme le réceptacle, je dirais, des esprits les plus fous et les plus avant-gardistes de cette conquête. Et c'est un peu comme si tous ces gens s'étaient retrouvés dans ce cul-de-sac, parce que l'étape d'après, finalement, c'est le Japon. On peut plus vraiment aller plus à l'ouest. Et donc, il y a un esprit très 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 particulier autour de ça, qui fait que les gens donnent assez libre cours, je dirais, à leur folie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a l'intersection de ça et d'une excellence opérationnelle complètement dingue, puisque finalement, au fur et à mesure des années, cette ville s'est aussi construite sur une capacité à produire ce qui reste un des éléments dominants de la culture de masse. Je parle de Hollywood
et donc de masse au niveau global.
De masse, world culture, quoi. Puisqu'on est tous inondés des films de Pixar, Fast and Furious, etc. Donc quelque part, c'est la rencontre entre cette folie douce des descendants des pionniers et en même temps une excellence opérationnelle et technologique qu'on ne trouve nulle part au monde. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, juste pour reboucler sur cette idée, c'est qu'il n'y a aucune ville au monde qui est capable de produire à la fois SpaceX et Frank Zappa. C'est-à-dire, en gros, de la musique complètement barrée et un visionnaire fou furieux unique dans l'histoire du son, et en même temps un mec qui envoie des roquettes sur Mars, quoi. Et je connais honnêtement aucun endroit dans le monde qui est capable de produire ces deux types d'individus de manière aussi extrêmement réussie.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la folie, il y a aussi cette culture du risque. On parle beaucoup des États-Unis, la culture de l'échec, la culture du risque, qui pour moi est plus une culture de laboratoire. Finalement, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Et puis, comme ils sont très opérationnels, les Américains, c'est-à-dire qu'ils sont bien, c'est vraiment des doueurs.
Bien sûr.
Donc, en fait, ils savent faire, donc ils testent rapidement. Il y a aussi ce truc, c'est qu'à New York, à New York ou à San Francisco, parce que San Francisco, c'est encore plus cher que New York, on peut plus vraiment, je pense que les Français réalise pas à quel point c'est cher de vivre à New York ou à SF. C'est sympa d'y aller en vacances, mais quand tu vis sur place, c'est quand même hyper cher. Et tu peux plus vraiment échouer, en fait. C'est pour ça que tu parlais des artistes. Les artistes se sont déplacés parce qu'ils avaient plus d'espace et qu'ils pouvaient plus vivre tout simplement à New York. Et puis, il y a aussi cette culture de l'échec. Quand on est une start-up et qu'on échoue à New York, bah, c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est compliqué quand ton loyer de bureau est à 10 000 dollars par mois. Disons que tes fonds
si tant est que t'es élevé de l'argent.
Non, je pense qu'à Los Angeles, effectivement, c'est la rencontre entre cette capacité opérationnelle qui est pour moi fondamentale, à l'esprit très pragmatique du peuple américain. Et encore une fois, cet accès à l'espace qui fait que, bah voilà, on peut louer des espaces grands pour pas cher, puisque finalement c'est illimité et que la ville gagnera toujours sur le désert. Je dis souvent que vivre à Los Angeles, c'est l'équivalent, en tout cas pour un individu, de vivre dans un petit pays d'Europe de l'Est, quoi. Ouais. En termes de taille, Los Angeles, c'est l'agrégation de 10-15 villes qui sont de la taille d'une ville moyenne en Slovaquie. Ouais, ou
d'ailleurs, on le sent bien, hein, quand on va à Los Angeles. C'est-à-dire que c'est vraiment des villes différentes. Enfin,
C'est des villes différentes, des ambiances différentes. Il y a vraiment un cut-off entre la partie ouest de la ville et la partie est, qui est un peu plus arty, on va dire. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais sur la culture du risque, je le relie à cet esprit, on va dire, des premiers pionniers qui ont envahi la Californie, avec cet accès à l'espace et des coûts de vie qui permettent à la fois l'entraide entre créatifs, mais aussi simplement le fait de pouvoir lancer des spaghettis au mur et voir ce qui colle ou voir ce qui tombe, quoi. Et c'est vrai que je trouve que cette edge a été un peu, c'est un peu perdu à New York. Et pour avoir passé 8 ans à New York et essayer d'organiser et organiser tout un tas à la fois d'événements et de projets, tu dois affronter en permanence à la fois les institutions, les régulations, les autorités, et c'est extrêmement dur à la fois d'improviser ou de faire simplement des trucs un peu hors normes.
Et puis, juste, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu parlais de qualité de vie.
Ouais.
Je pense qu'il y a tout un truc aussi, quand on pense Californie, alors on peut penser cannabis directement, mais on peut aussi penser que ils se sont quand même beaucoup opposés à Trump, et c'est le premier État à être vraiment plus vert, en tout cas que les autres. Alors, je sais pas s'ils sont beaucoup plus verts que nous ici ou autres, mais en tout cas, ils font beaucoup plus attention à la nature, ils ont une conscience beaucoup plus élevée, et ils ont effectivement quand même cette qualité de vie par rapport aux plantes.
Alors après il faut un peu nuancer tout ça dans la mesure où Los Angeles reste une ville extrêmement polluée, mais en tout cas je dirais qu'au niveau de la conscience individuelle, puisque c'est une ville qui est aussi très lié à la culture automobile, on va dire.
Ouais. Il n'y a
pas de piétons à Los Angeles, tout le monde prend sa voiture, les distances sont énormes. Donc évidemment, tout ça est synonyme de pollution. Et quand on fait un hike sur les hauteurs de Los Angeles, on voit très bien cette couche noire de pollution qui domine la ville. Mais je dirais qu'en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience au niveau individuel la planète doit être respectée, qu'on doit faire chacun son effort à notre petit niveau. Et à côté de ça, il y a évidemment la technologie qui avance. L'endroit où j'habite, Downtown LA, possède le plus grand incubateur mondial sur tout ce qui est biotechnologie et green technology. Et donc, il y a énormément d'argent qui est investi par l'État californien. Donc, il y a une vraie prise de position de l'État, parce que c'est un État dans l'État. Hein. La Californie, c'est, je crois, la 5e économie mondiale, juste devant la France, d'ailleurs. Donc, il y a une vraie prise de position forte de l'État, du state californien pour avancer là-dessus, et c'est quelque chose qu'on voit de manière très 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 présente au quotidien, quoi. Et dans les conversations des gens, et même simplement dans la manière dont ils se comportent et le type de produits qu'ils utilisent.
Et finalement, ça va, parce qu'aujourd'hui, quand on est français, on regarde beaucoup, on adore New York. On a quand même un regard tourné vers New York qui est hyper fort, mais j'ai l'impression que de plus en plus, avec cette tendance du bio, des avocats de toast, tout ce genre de trucs qui viennent quand même beaucoup plus de LA, en fait. Ce côté santé, probiotique, je fais attention à moi, etc. C'est quand même beaucoup plus Los Angeles que New York, en réalité.
Je pense que beaucoup, enfin, LA est un peu sous les feux de la rampe en ce moment. Ouais. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs le lien entre Los Angeles et l'Europe, parce que New York est une ville qui est très européanophile. Il y a toujours un peu ce complexe. Il ne faut pas oublier aussi la manière dont New York a été fondée. C'est la Nouvelle-Angleterre et les yeux sont tournés vers l'Europe en permanence. Et d'ailleurs, quand tu es français à New York, tu es toujours un peu mis sur un piédestal.
C'est ça, c'est
les
clair,
gens adorent
clair.
Les Français. Bah, Los Angeles, bon, la France, c'est cool, mais t'es très loin. Beaucoup plus le regard tourné vers l'Asie. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre aussi un peu les dynamiques entre les différents endroits. Mais je pense que dans l'imaginaire européen, si ce n'est français, Los Angeles a à l'heure actuelle presque, je dirais, l'image d'un Berlin de l'Ouest, quoi.
Ouais, complètement.
C'est-à-dire une ville où beaucoup de choses se passent, où il y a tout un tas d'artistes qui confluent. En plus, là, petit clin d'œil ironique, on était quand même en compétition pour
Ouais,
les Jeux Olympiques
complètement.
avec Los Angeles. Donc, je pense que beaucoup de Parisiens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? On pensait que c'était, comme tu le disais, la ville des stars et des acteurs
Ça.
ratés à 10 000 kilomètres de chez nous. Mais donc, d'un seul coup, Los Angeles redevient intéressante. Et voilà, et je pense que petit à petit, on va dire, les liens entre l'Europe et cette ville vont s'affirmer, vont s'épaissir, et que beaucoup de choses intéressantes vont naître de ça.
Et juste un dernier point sur la faille, parce qu'en fait, quand on vit en France aussi, on se dit non, mais vivre à LA, c'est complètement stupide, acheter une maison ou quoi, parce qu'en fait, on sait qu'il y a cette faille qui est énorme et
Faille de
qui
San
peut,
Andreas, oui.
voilà, qui peut faire en sorte que la ville n'existe plus demain, en fait. C'est quoi l'impact sur la culture locale?
Je dirais que là, on a pas mal parlé des points positifs de Los Angeles, mais avant de répondre plus précisément sur cette menace finalement permanente qui pèse sur les habitants de Los Angeles, je veux aussi un peu mettre en perspective tout ce dont on a discuté, en disant qu'évidemment, comme tous les grands centres urbains de cette taille, Los Angeles présente des problèmes endémiques assez majeurs, et notamment le problème des sans-abri qui est assez dramatique en Californie en général, à Los Angeles en particulier. J'habite comme je le soulignais, Downtown LA, qui est un peu le centre, on va dire, historique de Los Angeles, juste à côté d'un endroit qui s'appelle Skid Row, qui est la plus grande concentration de sans-abri de tous les États-Unis. C'est une ville au sein de la ville où à peu près 30 000 sans-abri vivent. Enfin, c'est un truc qui est complètement dément à voir. Donc Los Angeles, même si c'est une ville en mutation, même si c'est une ville dans laquelle beaucoup de richesse est en train d'arriver, même si on a la matière grise, la créativité, l'espace, souffre quand même des problèmes majeurs que toutes les grandes villes rencontrent, et de manière, je dirais, proportionnelle à sa taille. Donc c'est aussi pour ça que c'est la ville du futur. C'est comment va-t-elle réussir, comment Los Angeles
Cette
va-t-elle
transformation.
réussir à sortir de ça? Et évidemment, par-dessus tout ça, il y a cette fameuse faille de San Andreas, qui est donc la rencontre de deux plaques tectoniques, et dont on dit, et ça fait partie un peu de l'imaginaire collectif, que en gros, elle peut se réveiller à tout moment. Donc la fameuse probabilité pour ce que les Américains appellent le Big One, c'est-à-dire un tremblement de terre majeur qui raserait littéralement la ville de Los Angeles et probablement une bonne partie de la Californie, la probabilité qu'un tel événement se déroule dans les 100 prochaines années et non négligeable, enfin même
C'est ça.
relativement substantiel, mais ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 120 ans. Donc on n'en sait rien, et je pense que la manière dont les Californiens prennent ça, c'est simplement une capacité aussi à vivre dans le moment. On dit souvent que New York, c'est la ville du futur, au sens où les gens se projettent toujours sur what's next,
Ouais, c'est sûr.
et les projets qui viennent les uns après les autres. Et ben voilà, en Californie, on est un petit peu plus dans l'instant, dans la qualité de vie, dans soi-même aussi, puisque finalement, ce que tu disais sur cet aspect wellness, ça va aussi avec une
Dans ce
connexion plus
sens-là,
grande
ouais.
avec soi-même. Et je pense que l'idée sous-jacente de dire qu'on peut disparaître du jour au lendemain, ça nous fait réfléchir sur voilà, le fait que tout est transitoire, et que quelque part c'est une bonne philosophie de vie à avoir pour être connecté et être dans le moment. Et voilà. Et je pense que c'est aussi quelque part une des composantes essentielles, non
Non
vraiment vraiment
négligeable.
sous-jacente et non exprimée totalement, qui fait l'intérêt de cette ville.
cool. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan.
Ouais.
À qui ou à quoi tu claquerais la porte aujourd'hui?
Si on lit ça à la Californie, je claquerais la porte aux gens qui disent que voilà, Los Angeles c'est une ville de gens superficiels, inintéressants, bodybuildés et qui veulent tous devenir acteurs. Et je les inviterais à venir voir d'eux-mêmes et à découvrir la complexité d'un endroit qui d'un point de vue géographique, topographique, naturel, sociologique, créatif et sensoriel est pour moi un des endroits les plus intéressants de notre petite planète.
Voilà. Cool, merci beaucoup.
Merci à toi Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.